Interview. 1. Interview. Hey, the bird. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi en conversation téléphonique, Monsieur Muller de l'IRES, l'Institut des recherches et expertises scientifiques qui est basé, si je ne m'abuse, à Strasbourg et qui évalue la qualité de l'air, les polluants et les allergènes qu'on peut retrouver dans les ERP, les établissements recevant du public. Alors c'est un sujet que nous avons beaucoup abordé ici à RDWA récemment avec Monsieur Monnier, voire dans une biotope récente qui traitait de la qualité de l'air avec Air Rhône-Alpes. Néanmoins, on va aborder aujourd'hui avec Monsieur Muller la question des établissements recevant du public, car c'est un axe avec lequel nous n'avons pas traité ce grave problème de la qualité de l'air. Monsieur Muller, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer de parler de ces polluants et de ces dangers qui nous menacent, pourriez-vous présenter l'institut pour lequel vous travaillez, l'IRES?
Oui, en fait, l'IRES est un laboratoire qui travaille sur tous les problèmes de polluants, de l'air en particulier, mais également d'autres types de polluants, comme les polluants dans l'eau, mais là, on parle essentiellement de l'air. Donc en fait, le problème des polluants, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux types de polluants qui apparaissent suite à l'activité humaine en particulier. Donc, pour pouvoir les analyser correctement, il faut avoir constamment un développement de laboratoire pour être toujours à la pointe des technologies et pouvoir répondre rapidement et de façon quand même assez simple aux problèmes analytiques qui se présentent.
Votre laboratoire existe depuis combien de temps?
C'est un laboratoire qui est issu d'autres laboratoires. Ce laboratoire-là existe depuis 4 ans, mais ici une expérience d'une dizaine d'années de l'analyse des polluants.
Il émane donc d'autres laboratoires, mais c'est plutôt une institution d'ordre public, semi-public ou privé?
Non, c'est une installation qui est privée, mais qui travaille avec du public. Nous avons des contrats, en particulier avec le CNRS, et aussi avec l'institut légal, pour pouvoir accéder à d'autres types de technologies, et aussi des projets de recherche publics ou publics-privés, pouvoir être toujours à la pointe de l'innovation.
Et alors, votre objet, votre véritable vocation, c'est faire de la recherche sur les polluants ou de proposer des services aux ERP?
En fait, nous développons des technologies d'analyse, prélèvement et analyse, que nous proposons ensuite aux personnes qui en ont besoin.
Et alors, ces personnes?
Nous avons un service d'analyse qui fonctionne, quoi, de façon très simple, par commande par Internet, par demande. Les demandes d'analyse sont faites sur Internet et nous répondons ensuite en envoyant ce qu'il faut pour faire des prélèvements éventuellement et ensuite pour avoir les réponses analytiques. Quoi.
Oui, mais avant de passer à votre façon de procéder, est-ce qu'on pourrait commencer par faire un petit tableau d'ensemble des polluants et autres allergènes que vous traquez dans les établissements recevant du public, hors pollution électromagnétique, si j'ai bien compris?
Bon, d'abord, quand on parle des ERP, donc établissements recevant du public, là on parle de la réglementation d'abord. Donc réglementation, elle demande certaines choses très simples qui sont en fait des traceurs, on peut dire, des polluants, tous les polluants qu'il peut y avoir. Et ces polluants, ce sont les COV, les composés organiques volatiles. Donc là, on va rechercher le benzène. Ce sont les aldéhydes, on va chercher le formaldéhyde, et c'est le gaz carbonique qui est issu en fait de la respiration. Donc ce sont les trois composés qui sont obligatoirement recherchés dans la norme, dans la réglementation qui vient de sortir pour les ERP. Après, il y a d'autres types de polluants, bien sûr, qu'on va rechercher, nous, sur lesquels on travaille et pour lesquels on propose une analyse. Ces polluants, ce sont donc effectivement d'abord les mêmes qu'on vient de dire qui sont réglementaires, donc ces composés organiques volatiles comportent tout type de produits issus de la combustion, issus des produits ménagers, issus des produits divers et variés qu'on utilise, des phytosanitaires, tout ça. Ça, c'est tous ces produits-là qui sont dans les COV qu'on va rechercher. Ensuite, il y a les allergènes. Bon, le COV peut être un allergène, mais il y a aussi des allergènes autres, comme des poils d'animaux, des différents insectes, des choses comme ça. Donc ça aussi, on va le rechercher. Ensuite, il y a donc les aldéhydes, qui sont une famille particulière de produits chimiques qu'on trouve dans l'école. Par exemple, tout ce qui est aggloméré, les bois agglomérés qu'on trouve partout maintenant, tous les matériaux qu'on achète, donc ce sont des produits qui sont quand même cancérigènes, donc il faut contrôler la teneur de ces produits.
Dans les étagères, par exemple.
Voilà, par exemple, étagères, petits meubles, tout ça, enfin, qu'on trouve maintenant partout. Ensuite, on travaille également sur une famille de produits qu'on retrouve dans les intérieurs également, ce sont les pesticides, hein, tous les pesticides, fongicides, insecticides utilisés dans l'environnement, que ce soit intérieur et extérieur d'ailleurs, essentiellement par l'agriculture. Et tout ça, on les retrouve, et tout ça, on peut analyser également, quoi. Et ce qu'on appelle un peu les nouveaux types de produits, les perturbateurs endocriniens, les PCB, tout ce type de choses, donc tout ça, on travaille dessus et on peut proposer une analyse dans l'intérieur d'une habitation de ces composés-là. Alors pour analyser différents types de composés, justement, je disais qu'on travaille sur l'analyse, mais également sur le prélèvement. Parce qu'évidemment, l'analyse comporte toujours, il y a toujours trois phases dans une analyse. Hein. D'abord, c'est le prélèvement. Comment est-ce qu'on prélève l'échantillon, très important. Ensuite, bien sûr, l'analyse. Et le troisième point, c'est l'interprétation. Parce qu'il faut savoir interpréter les résultats, sinon ça ne sert à rien. Donc, ces trois phases sont essentielles et on travaille donc sur ces trois phases. Donc, si je reviens à la première phase de prélèvement, donc, lorsqu'on parle de composés volatiles, comme le benzène et le formaldéhyde, on va travailler sur des capteurs passifs. Donc, c'est une petite boîte qu'on peut vous envoyer et que vous posez chez vous et qu'on laisse pendant une semaine. Ensuite, on ferme la boîte, on l'envoie au laboratoire et nous, on analyse, on vous dira ce qu'il y a dans l'air. Il y a une corrélation entre ce qui est retrouvé donc dans cette boîte et la teneur en microgrammes par mètre cube dans l'air du polluant. Ensuite, les autres types de composés dont je parlais, donc les pesticides, les PCB et tout ça, là, on va analyser des poussières. Là, on peut vous envoyer un petit filtre, c'est un embout qu'on met sur un aspirateur, et vous aspirez dans la maison, les poussières, et ces poussières, nous, on les analyse, et on va, dans ces poussières, retrouver, encore une fois, des polluants, qui sont des polluants moins volatiles, mais qu'on retrouve dans l'habitation. On a un troisième type pour montrer un peu justement le type de recherche qu'on fait, l'autre type de prélèvement qu'on fait, l'important quand on fait une analyse de polluants, c'est quand même l'effet sur l'homme, donc c'est ça qui nous intéresse. Et nous retrouvons tous les polluants que je viens de citer, tous ces polluants, on les retrouve en fait dans le sang et dans le cheveu. Le cheveu est alimenté par le sang, on les retrouve dans le cheveu. Et donc nous, on analyse, on peut envoyer une mèche de cheveux et on vous dira la teneur de pesticides. Donc là, en fait, le taux de contamination de pesticides que vous pouvez avoir. On travaille sur des pesticides, on travaille sur les PCB, ces produits qu'on retrouve dans les matières plastiques, toutes ces choses-là. Mais également, par exemple, on travaille également sur la radioactivité qu'on peut retrouver également par analyse des cheveux. Ça, c'est une troisième, en fait, type de prestation que nous faisons.
Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, Monsieur Muller. Et on n'a pas parlé de ce qu'est un ERP et de vos types de clients. Donc, qu'en est-il de vos clients et pourriez-vous nous définir ce qu'est un ERP et à quel titre ces ERP sont soumis à des normes et à des contrôles?
Oui. Alors, donc, ce qu'on appelle donc les ERP, donc, en fait, il s'agit de la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Et donc, cette surveillance de la qualité de l'air intérieur va devenir obligatoire dans certains lieux clos ouverts au public. Une loi, donc, s'articule autour de quatre échéances. Hein. Avant le 1er janvier 2015, tous les autres établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc tout ce qui est maternelle, les crèches, etc., donc devraient être analysés donc pour ce que je viens de dire, hein, le benzène, le formaldéhyde et le CO2.
Avec une certaine périodicité?
Avec, effectivement, des teneurs sont définies. Et au-delà de cette teneur-là, il faut prendre. Enfin, il y a différents types de niveaux. Il y a trois niveaux. Il y a un niveau, premier niveau, qui est le niveau considéré comme non dangereux, quoi. Même si effectivement, c'est une norme qui est fixée par l'OMS, mais qui n'est pas jamais effectivement complètement figée. Hein. Ensuite, il y a une norme pour laquelle il faut prendre des mesures. Et il y a une troisième limite, ou alors, là, carrément, il faut arrêter, il faut sortir les enfants. C'est un peu les trois niveaux. Donc ça, c'est donc la première échéance, 1er janvier 2015.
Je vous prie de m'excuser, mais est-ce que ces contrôles seront à faire de façon périodique, par exemple, une fois tous les ans, ou tous les deux ans, ou tous les trois mois?
Une fois qu'on a fait cette surveillance, cette analyse à fond dans l'établissement, ensuite, c'est tous les sept ans. Sauf si les valeurs étaient proches de la valeur limite, là, c'est tous les deux ans. Ça dépend de ce qui a été trouvé comme mesure, comme résultat, quoi.
Oui, mais d'un autre côté, il suffirait que cet ERP, cet établissement recevant du public, ait fait quelques travaux de bricolage et ait installé effectivement quelques panneaux d'agglomérés pour que vos mesures soient caduques.
Oui, mais bien sûr, mais on ne peut pas non plus imposer à un établissement de faire constamment des analyses. Hein. C'est toujours quand même assez lourd, quoi, même si ça reste assez simple, mais quand même, c'est une première étape. Donc, peut-être dans quelques années, il y aura des systèmes de mesure en continu. Aujourd'hui, on démarre, c'est une nouveauté, cette obligation d'arrivée de l'air intérieur, c'est une nouveauté. Et on démarre, et je trouve que c'est très bien d'avoir déjà une première obligation, d'un premier contrôle dans les écoles, et en particulier pour les personnes les plus fragiles qui sont les enfants en croissance.
Alors, je vous ai interrompu, mais alors vous vouliez en venir à
quel... Oui, je disais simplement, je parlais des échéances de la réglementation qui vient donc de sortir. Et donc, avant le 1er janvier 2015, ce sont donc les établissements d'enfants de moins de 6 ans. Hein. Ensuite, au 1er janvier 2018, ce sera pour les écoles élémentaires. Et au 1er janvier 2020, ce sera pour tout ce qui est accueil de loisirs et enseignement, toutes les écoles, quoi. Même second degré, formation professionnelle. Et après, 2023, ce sera tout établissement au centre public. Voilà, ce sera que ce soit un restaurant, une salle de spectacle, voilà. Donc, en fait, l'air intérieur sera contrôlé partout. L'étape suivante, ce sera sans doute l'habitation privée, quoi. Et voilà, c'est une chose qui démarre, qui est vraiment très positive, mais on ne peut pas être trop vite parce que c'est quand même un coût, même si ce n'est pas forcément tellement important, c'est comme un coût. Et en plus, on ne peut pas non plus tout mesurer parce que tous les polluants, ce serait très compliqué. Donc, on démarre, comme je le disais, sur ces trois molécules qui sont en fait qui sont des molécules qu'on sait être dangereuses, même cancérigènes, et si elles sont présentes, donneront une indication sur l'éventuelle présence d'autres composés, donc le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone, le CO2.
Monsieur Muller, je le sais parce que nous avons fait un tout petit interview qui était dans une biotope récente, donc vous procédez de deux façons différentes pour faire vos analyses.
Oui, donc, comme je l'avais précisé la dernière fois, il y a une première façon très simple de faire un contrôle de son air intérieur, c'est d'acheter un kit. Donc, cette fameuse boîte dont je parlais, qu'on pose une semaine chez soi et qu'on renvoie au laboratoire, ça, c'est la première étape la plus simple. Hein. Nous, en fait, on travaille avec un site qui fournit ces boîtes qui sont faites qu'on analyse ensuite, qui est donc, comme je le disais, le site... Kudzu Science, KUDZU Science.fr, qui est un site internet sur lequel on peut se procurer ces kits-là. Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est de faire venir un diagnostiqueur. Donc, ce sont les personnes qui font le diagnostic amiante, loi Carès, tout ça, qui connaissent le bâtiment et qui, eux, sont habilités, pas tous, bien sûr, certains sont habilités pour également faire l'air intérieur. Donc, ils vont faire. Ils vont poser ce capteur, ils vont venir avec l'appareil de mesure en continu de gaz carbonique, et voilà. Et ceux-là, donc, nous, on travaille avec l'AFIA, donc AFIA, c'est l'Association française interprofessionnelle de l'air intérieur, qui sont des spécialistes qui travaillent dans le domaine. Voilà, les deux façons, une très rapide pour déjà avoir une première idée assez simple, hein, parce que bon, ce sera un coût d'une centaine d'euros, un peu plus de 100 euros, pour faire cette mesure-là par laboratoire qu'on fait soi-même, quoi. Mais là, ce sont des détails complets des types de polluants qui sont dans l'air, avec la norme qui sont en dessous, au-dessus des normes, éventuellement des conseils de type d'où peuvent venir ces polluants et ce qu'on peut faire pour réduire la teneur dans son air intérieur.
Et pour la deuxième méthode, alors, vous n'avez pas eu le temps de me dire les prix ?
Voilà, les prix de base pour faire venir un diagnostiqueur pour l'air intérieur, ce sont les 500-600 euros. Ensuite, pour faire un diagnostic, les lieux de vie à contrôler.
Vous l'avez un petit peu abordé, vous pouvez aussi non seulement faire ces analyses, mais proposer quelques solutions. Et de quelles solutions s'agirait-il ?
La viabilité pour présenter des solutions, ce sera effectivement le diagnostiqueur qui vient sur place, ce membre de la FIA, qui connaît parfaitement le bâtiment, parce qu'il connaît pas seulement le problème de l'air, mais également la ventilation. Donc il y a un problème de ventilation, il y a la ventilation, il y a le type de matériaux que vous avez chez vous, faire un petit inventaire des matériaux qui sont chez vous. Et ensuite, il y a éventuellement des systèmes qu'on peut avoir de traitement d'air intérieur. On travaille avec différentes sociétés qui proposent des systèmes, donc ça, on peut proposer, aider dans le choix de ce type de matériel. Nous sachant que la première chose, après, c'est d'avoir une bonne hygiène d'aération des locaux, que ce soit par la ventilation, justement, par un système DMC, par l'ouverture des fenêtres. Il faut gérer tout ça et avoir... éventuellement refaire un contrôle au bout de quelques temps après avoir géré un peu son système de ventilation.
Je vais vous demander une question un peu plus précise. En ce qui concerne les formaldéhydes et autres cols pour agglomérer, il en faut beaucoup des plaques en aggloméré pour empester un air intérieur ou est-ce qu'une modeste étagère suffit à appesantir la vibration ?
Peut-être pas une seule modeste étagère, mais quelques étagères, un meuble complet. Bon, ensuite, le problème, c'est que les meubles, avoir une qualité, enfin différents types de qualité, certains émettent plus que d'autres, donc un aggloméré ne va pas forcément être dangereux, mais ça dépend du type d'aggloméré que ça va être, parce que le problème de ces composés-là, ils peuvent être également piégés dans un système par des peintures moins dangereuses qui vont bloquer les émanations. C'est pour ça qu'il faut faire un contrôle. On ne peut pas savoir comme ça, uniquement par la présence des matériaux, savoir si ça va être dangereux ou pas.
Mais c'est très bien, vous l'avez dit vous-même, qu'il y ait une prise de conscience et qu'on tend vers une analyse de plus en plus fine des ERP et peut-être un jour des habitats privés. Mais néanmoins, ça me paraît quand même assez sidérant d'avoir identifié le fait que les formaldéhydes étaient cancérigènes et d'autoriser encore de faire des meubles à destination des êtres humains. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a constamment une recherche de changement de technologie pour éliminer certains produits, mais le formaldéhyde, pour le moment, il n'est pas encore interdit. En fait, il n'y a pas directement de formaldéhyde dans l'école, mais c'est la dégradation qui progressivement libère des formaldéhydes. On n'a pas résolu ce problème techniquement, donc pour le moment, même si ça a été réduit, ça reste encore un problème important.
Vous m'avez dit que on en était au balbutiement de cette ère de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Vous êtes isolé sur ce marché ou y a-t-il d'autres organismes qui vont s'installer puisque qui dit marché dit prestataire ?
Oui, bien sûr. Les gros laboratoires qui travaillent dans l'environnement, qui travaillent essentiellement dans de l'eau. Aujourd'hui, les gros laboratoires environnementaux, ils travaillent sur le contrôle de l'eau, l'eau potable, tout ça. Ils travaillent sur les émissions d'air, mais dans les usines. Donc ça, là, il y a des gros laboratoires et qui vont se positionner, effectivement, pour pouvoir répondre à cette demande qui est en train d'arriver pour l'analyse de benzène formaldéhyde dans les ERP. Par contre, il faudra quand même qu'ils soient reliés à des diagnostiqueurs qui vont sur place, rien que pour la mesure, par exemple, du CO2, qui se fait in situ. Donc ça, c'est... Donc la FIA a son rôle à jouer pour... répondre à cette problématique.
Monsieur Muller, vous avez parlé des allergènes. C'est un problème, effectivement, en plein développement. Semblerait-il qu'il y ait plus en plus de gens qui soient sensibles aux allergies. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on tend vers le contrôle des allergènes?
Oui, donc on parle des problèmes de l'air intérieur. Donc un des problèmes majeurs de santé, c'est de possibilités de cancer de poumon et autres. Mais il y a également... Le plus visible actuellement, c'est les allergies. Il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques, en particulier les enfants. Il y a une proportion énorme. Il y a, je crois que c'est 30% des gens sont allergiques. Alors, on parle beaucoup des allergies extérieures, du pollen, qui sont importantes allergies, mais on s'est rendu compte qu'une bonne partie des allergies sont également dues à des contaminants de l'air intérieur. Que ce soit ces polluants chimiques, mais également d'autres polluants du type, comme j'avais déjà évoqué, de poils d'animaux ou d'insectes qui libèrent des substances. d'avenir pour réduire ce problème des allergies.
Peut-être plutôt que de développer votre secteur d'activité, se mettre réellement à traquer les pollutions.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Le pendant de tous ces contrôles-là, c'est, mais qui sera obligatoire, hein. Il faudra bien le faire, ce sera d'arriver à limiter les sources de pollution, bien sûr.
De ce point de vue-là, je pense que vous avez quand même malheureusement d'un côté et heureusement pour vous d'un autre, vous avez de beaux jours devant vous.
Oui, comme je le disais, les industriels cherchent des produits. Quand on trouve un produit dangereux, comme le benzène par exemple, qui est interdit maintenant un peu partout, mais qu'on retrouve, qu'on trace dans des composés, donc les industriels les remplacent par d'autres molécules. On fabrique des milliers de molécules nouvelles tous les ans. Et ces molécules-là, souvent on s'aperçoit qu'elles sont dangereuses également, mais différemment. Donc ça demande... Une nouvelle molécule qui arrive sur le marché, ça veut dire une nouvelle technique d'analyse pour le contrôler, etc. Et une nouvelle analyse toxicologique. Donc c'est vrai que c'est un travail un peu sans fin et nous avons effectivement beaucoup à faire.
C'est à la fois bien que vous n'ayez pas de temps pour vous ennuyer et puis c'est un peu triste pour nous autres êtres humains, vous en faites partie, qui souffrons tous les jours de ces pollutions. Monsieur Muller, je vous remercie d'avoir participé à cet entretien qui, j'espère, était assez pédagogique.
J'espère que j'ai été clair, parce que c'est quand même parfois un peu complexe, mais bon, voilà.
Nous verrons bien, puis de toute façon, je pense que c'est dans l'air du temps maintenant, cette conscience de vérifier si l'air que nous respirons est correct et sain. Je pense que c'est dans l'air du temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'il commence à y avoir ces contrôles qui deviennent obligatoires et qui vont devenir de plus en plus obligatoires.
Absolument, oui.
Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.
Merci, vous aussi, une bonne continuation et beaucoup d'auditeurs. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir, Monsieur Muller.
Interview. 1. Terre. Hey, the bird. Interview. L'interview du jour. L'interview du jour.